Radio Okapi. Grande interview.
Les réserves en devises de la RDC dépassent à nouveau le cap d'un milliard de dollars. Comment la RDC en est-elle arrivée à cette performance? Que faut-il pour que les finances publiques congolaises puissent maintenir le cap? Pour répondre à ces questions et à d'autres touchant à l'actualité économique, je reçois Dédé Moulossa, chercheur indépendant et spécialiste des questions économiques, des finances publiques et de la monnaie. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Dédé Moulossa, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Comment allez-vous?
Oui, ça va très bien.
Je le disais, les réserves en devises de la RDC dépassent à nouveau le cap d'un milliard de dollars américains. Comment expliquez-vous cette performance?
La performance est due à deux facteurs essentiels. La première est liée au niveau de la collecte de réserves, de recettes en devises. Du gouvernement de la République, les recettes fiscales et non fiscales, qui ont connu une légère hausse en 2017 et cette hausse continue encore en 2018 sur les trois mois de l'année en cours. Deuxième facteur, c'est la rationalisation des dépenses publiques qui se font de manière à ce que l'on ne puisse pas dépasser la ligne de recettes réalisées par le gouvernement de la République. Je peux expliquer ça de cette manière-là en quelques secondes. Donc c'est cela qui fait que les réserves d'échange du gouvernement de la République est augmentée assez substantiellement. Donc le gouvernement garde le cap de recadrer les dépenses en devises en maintenant les dépenses liées à la dette extérieure qui est payée en devises, mais aussi les rémunérations en devises pour le personnel, les fonctionnaires de l'administration publique qui sont payés en devises pour ceux qui sont dans les ambassades et les organismes internationaux, mais également les dépenses en ce qui concerne le soin de santé à l'étranger du personnel de l'administration public, mais aussi les frais de voyage qui sont généralement payés en devises. Donc la rationalisation de ces dépenses a permis justement qu'on limite le niveau plus ou moins en dessous de la ligne budgétaire de recettes fiscales et non fiscales, et on a pu dégager ces marges de plus d'un milliard de dollars qui ont été annoncées par le ministre de la communication et porte-parole du gouvernement qui faisait là, le compte-rendu de la dernière réunion du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État.
Vous parlez de la collecte des recettes fiscales et non fiscales. On se souvient qu'il y a très peu de temps, la République démocratique du Congo se plaignait de la difficulté de collecter ces recettes. Qu'est-ce qui se passait alors à ce moment-là?
À ce moment-là, il y a deux choses également. La première, c'est que les niveaux de l'activité avaient assez fortement baissé du fait du contre-coup de la baisse de cours de matières premières. Nous sommes principal producteur de matières premières industrielles, minières et agricoles. La baisse de cours a eu un impact négatif sur la baisse de recettes fiscales et non fiscales en devises. Deuxième chose, c'est que on a remarqué qu'il y avait un taux de plus en plus élevé d'évasion de recettes fiscales par la multiplication de tracasseries, la multiplication des actions, des opérations de contrebande minière. Mais
la fraude, la corruption.
La corruption, le détournement de deniers publics. Et pour ce faire, d'ailleurs, je peux dire que le chef de l'État, depuis le 11 août 2017, a mis en place une structure spécialisée, une structure gouvernementale spécialisée pour le suivi de la lutte qu'il voudrait engager de front avec tous les contrebandiers miniers, tous les fraudeurs fiscaux et autres. Cette structure s'appelle Comité Mixte Stratégique qui est piloté par son directeur de cabinet, M. Nehemi Mwilania. Donc, l'implication du chef de l'État est mieux illustrée de cette manière-là. Et cette structure a contribué d'une certaine manière, je pourrais même dire largement, au recadrage du mode de perception des recettes, pas seulement les recettes minières pour parler des recettes en devise, mais de l'ensemble des recettes. Pour donner quelques indications chiffrées, il vous souviendra qu'en juillet 2017, les recettes de l'État étaient de plus ou moins 260 milliards de francs congolais contre des prévisions de plus ou moins 500 milliards. Donc, après la mise en place de cette structure gouvernementale, on a vu les recettes bondir vers la hausse et aujourd'hui, nous sommes à plus ou moins 520 milliards de francs congolais, 380 millions de dollars par mois pour donner les derniers chiffres au 26 mars 2018 lorsqu'on regarde l'exécution du plan de trésorerie du secteur public. Donc, on a connu cette amélioration de la collecte des recettes, de l'ensemble de la collecte des recettes, mais aussi de recettes en devises qui représentent généralement 25 à 30% de l'ensemble des recettes du pouvoir central. En termes techniques, on parle des recettes à caractère national. Donc les chiffres que je donne, ce sont des chiffres en ce qui concerne le budget, c'est le budget du pouvoir central. Je n'inclus pas encore les données en ce qui concerne les mêmes chiffres pour les budgets des provinces et des ETD qui peuvent faire l'objet d'une autre émission. Je pourrais être à votre disposition si le temps peut me le permettre.
Radio Okapi. Grande interview.
Dédé Moulossa, vous êtes chercheur indépendant et spécialiste des questions économiques, des finances publiques et de la monnaie. On se souvient aussi que au Parlement, à l'Assemblée nationale particulièrement, lorsque les parlementaires font la reddition des comptes, il y a très peu de temps également, on assistait à des dépassements budgétaires énormes. C'est quoi la différence aujourd'hui?
La différence, c'est qu'à l'époque, il y avait de très grosses pressions sur les dépenses, surtout des rémunérations et des fonctionnements des institutions. Les institutions qui continuaient à plus ou moins augmenter en nombre, mais aussi en personnel, pour la mise en place du processus du cadrage politique du pays après les élections de 2006. Mais il y avait également, en dehors de cette pression de dépenses, mais il y avait aussi la pression qui venait des dépenses des rémunérations. Les personnels de la fonction publique, aujourd'hui, lorsqu'on prend les personnels militaires, policiers et civils, est de l'ordre de 1 200 000 fonctionnaires. 1 200 000, nous venons de loin parce que en 1960, nous n'avions que 200 000 fonctionnaires rémunérés, mécanisés par le gouvernement. Et en 1997, nous étions autour de 300 000 fonctionnaires. Aujourd'hui, ces effectifs-là ont presque triplé, quadruplé de taille. Nous sommes à 1 200 000. Et cette augmentation du volume des effectifs de la fonction publique a contribué énormément à faire des pressions sur les dépenses de l'État pris de manière générale.
Mais il y a aussi des rapports parlementaires qui ont fait état des dépenses très excessives des institutions très budgétivores comme la présidence de la République, le Parlement aussi.
Oui, lorsqu'on parle de structure budgétivore, le terme peut-être est très fort. Les politiciens aiment bien dramatiser certaines situations. Lorsque vous avez une institution comme la présidence, vous l'avez cité, comme le Parlement, comme l'Assemblée nationale, lorsque vous regardez le personnel dans ces institutions-là, ce personnel-là est en nette augmentation en ce qui concerne leurs effectifs, pour leur permettre de mieux capitaliser leur efficacité, leur efficience au niveau des services qu'il conviendrait de rendre à notre pays. À plus de 50 ans, nous n'avions pas une structure comme le Sénat, Et c'est tout à fait normal que les dépenses d'une institution comme celle-là puissent augmenter. Lorsque également vous augmentez le nombre, vous doublez presque le nombre de provinces, et donc vous doublez également le nombre du personnel dans ces structures-là, administratives et politiques. C'est normal qu'il y ait des pressions énorme, mais maintenant il faut rationaliser les dépenses pour que on ne puisse pas aller dans tous les sens dans les dépassements auxquels vous faites allusion. Effectivement, les budgets depuis un certain temps, du fait de ces pressions-là, des dépenses de rémunération, des dépenses de fonctionnement des institutions en nette augmentation, mais aussi des dépenses d'investissement. On a noté de gros dépassements, et depuis 2017, depuis le mois d'août, le mois de septembre, avec la mise en place de la structure dont j'ai parlé tout à l'heure, le comité mixte stratégique, les instructions du chef de l'État ont été de recadrer les dépenses, de rationaliser les dépenses de l'État, de manière à ce que l'on puisse exécuter les budgets chaque mois avec plus ou moins d'excédents. Parce que vous n'en avez pas parlé, vous avez parlé plus de réserves de change qu'on ne peut pas confondre avec les excédents budgétaires qui sont réalisés depuis le mois de décembre. On était à 57 milliards pour terminer l'année 2017 et au 26, il y a une semaine, on était à 261 milliards de francs congolais, l'équivalent de plus ou moins 158 millions de dollars, pour être plus ou moins précis. Donc, c'est une politique, c'est une volonté, c'est une orientation qui est donnée pour que les excédents budgétaires qu'on réalise chaque mois puissent continuer à s'accumuler pour répondre à plusieurs préoccupations, à plusieurs urgences. Nous sommes dans ce mode de gestion-là. Le pays est en guerre, le pays est sous la menace de tous ordres. Il est important qu'il y ait de réserves et qu'on ne puisse pas dépenser chaque mois, chaque année, tout ce qu'on collecte parmi les priorités. Ce fonds peut être utilisé pour alimenter un fonds souverain, qui est un fonds constitué par tous les États du monde entier. Nous n'avons pas un fonds souverain chez nous. Ça peut aussi être utilisé pour les investissements stratégiques. Ça peut aussi être utilisé pour certaines dépenses urgentes. Par exemple, il y a une menace de guerre qui nous arrive. Plutôt que de faire des arbitrages pour les réductions de certaines dépenses courantes, par exemple, ou d'investissement, que l'on puisse puiser dans cette cagnotte-là, c'est important de les signaler. Et j'ai voulu qu'un mot soit dit par rapport à ces excédents budgétaires.
Grande interview reçoit aujourd'hui Dédé Moulossa, chercheur indépendant et spécialiste des questions économiques, des finances publiques et de la monnaie. Évidemment, on n'a pas encore parler des Moulossa, de l'embellie des prix des matières premières dont la RDC bénéficie en ce moment. Il y a surtout le cobalt dont les prix sur le marché international a presque doublé, passant de 47 000 à presque 85 000 dollars. La tonne de cuivre se négocie à 7 014 dollars contre 5 800 auparavant. Le prix de l'once d'or et du baril du pétrole sont aussi en hausse, et donc tout ça contribue à renflouer les caisses de la RDC.
Oui, pour que ça puisse renflouer effectivement les caisses de l'État, il faudrait que le cadrage puisse mieux se faire. D'abord, un cadrage juridique. Pour ce qui est des ressources minières, il y a un nouveau code qui a été promulgué par le chef de l'État, malgré la pression excessive, je pourrais me permettre ce terme-là, des opérateurs dans ces secteurs-là, ce qui représente une production de 85%, les sept majors du secteur, ont fait des pressions pour que le code ne soit pas publié en l'état, c'est-à-dire dans l'état où il avait été voté par l'Assemblée nationale, puis par le Sénat. Et donc, pour profiter de cette embellie, il est donc important que le code soit appliqué, parce que le code nous offre l'avantage que s'il est appliqué, il peut déjà nous permettre à l'État de collecter un peu plus de 2 milliards de dollars de recettes supplémentaires. Je donne les chiffres en fonction des conditions actuelles de cours. Vous avez dit que le cobalt s'échangeait à 80 000 dollars au marché de Londres. À New York, on est un peu plus bas, mais 90, 95 000 dollars la tonne. Mais les projections des économistes, les perspectives sont telles que, à l'horizon 2020, si pas même avant, ce prix-là va presque doublé. Il pourrait atteindre 140 à 150 000 dollars la tonne du cobalt du fait des effets d'une demande qui viendrait de la production de véhicules, de la migration vers la production de véhicules électriques. Donc nous pourrons atteindre les 150. Mais pour bénéficier de l'embellie, il est important que l'on puisse appliquer parce que l'impact financier, l'impact en termes de recettes fiscales et non fiscales dans les secteurs est très important. Et je répète, il est de l'ordre de 2 milliards de dollars supplémentaires si on applique en l'état le code minier. Vous allez me dire d'où viennent les 2 milliards. Les 2 milliards viennent en fait du fait que on va élargir la base fiscale de la collecte dans ces secteurs avec la suppression de certaines conventions qui ne permettaient pas à l'État de pouvoir bénéficier des recettes dans certaines entreprises, qui sont d'ailleurs les plus importantes, l'élargissement de la base, je disais, mais aussi le fait que les impôts, les taxes, les droits, dans certains domaines ont été augmentés pour le cobalt. La redevance passe de 2 à 10% pour ce qui est de la redevance dans les secteurs, dans le cuivre. Elle passe de 2,5 à 3%. C'est la même chose pour l'or, ainsi de suite, des produits que nous réalisons. Donc, avec ce couple de l'élargissement de la base fiscale dans le secteur minier, mais aussi l'augmentation de taux de fiscalisation de ces secteurs, nous pourrions bien atteindre 2 milliards de dollars, si pas plus, supplémentaires sur les 800 millions qu'on a l'habitude de percevoir depuis bientôt à peu près 5 ans.
Dédé Moulossa, vous avez fait tout à l'heure allusion à l'utilisation, à ce que l'on peut faire de ces excédents budgétaires. Vous avez cité trois éléments, soit constituer un fonds souverain, ou faire des investissements stratégiques, ou encore les utiliser à des dépenses urgentes. Pour la population congolaise qui suit toutes ces informations, est-ce que pour elle, les dépenses urgentes, ce ne serait pas le social qui l'intéresse évidemment au quotidien?
Monsieur le journaliste, dans notre pays, nous sommes habitués à utiliser, à galvauder certains termes. Le social, ce n'est pas ce que l'on veut dire. Moi, je ne voudrais pas parler du social et que s'il y a un expert, un économiste français, belge, américain, britannique et autres qui m'entendraient parler, qui puissent douter de ma formation,
de vos compétences
et de mes compétences. Donc, en fait, lorsque au Congo on parle du social, on veut parler des revenus, revenus salariaux principalement. Et donc, par rapport à ces sociales-là, selon les termes communs dans l'imaginaire
congolais, dans le contexte congolais,
voilà, dans l'imaginaire commun, il faut dire que les efforts ont été faits. Je vous ai dit ici que les effectifs, la taille de la fonction publique a presque quadruplé. Nous sommes passés de 200 000 en 60 à 300 000 en 1997. Nous sommes à 1 200 000 fonctionnaires de l'État, civil, policier, militaire. Et l'enveloppe de rémunération de ces fonctionnaires et agents de l'État est de plus ou moins 2 500 milliards de francs. Aujourd'hui, ça représente à peu près 1 500 millions de dollars, 1 600 millions de dollars, dirais-je. De dollars américains sur un budget de 4 milliards selon les projections de 2017. Donc il y a des efforts qui sont faits en termes d'augmentation. Deuxièmement, il y a les accords que l'intersyndicale de la fonction de l'administration publique, l'INAP, vient de signer au mois de février avec le gouvernement de la République pour programmer des augmentations à partir de 2019, 2020, 2021 pour qu'on puisse atteindre un niveau qui permettrait à ce que la base barémique augmente à 250 dollars de contre-valeur pour un huissier et qu'il soit de 2 500 dollars base barémique. Je ne parle pas encore des avantages. Parce que s'il faut intégrer les avantages, déjà aujourd'hui, un fonctionnaire de l'État au plus bas niveau a déjà plus ou moins 200 dollars. Ça dépend des ministères, ça dépend des administrations.
Alors,
ils sont déjà à ces niveaux-là. Ce sont des efforts qu'il conviendrait d'indiquer. Autre chose, c'est le secteur privé dont on parle moins. Et dans le secteur privé, il y a beaucoup de gens qui ont investi. Dans les mines, nous avons 20 000 emplois qui ont été créés sur à peu près 10 ans. Compte des investissements, à cause des investissements de 10 milliards et demi que les minis ont investi. Avec ces 20 000, on a créé des emplois. Et bien, avec ces emplois, on a donné des revenus salariaux importants. Je parlerai aussi de banque, du secteur bancaire. Vous voyez l'extension de la ramification du secteur bancaire sur l'ensemble du territoire national. Ça crée énormément d'emplois, mais ça peut faire l'objet d'une émission où nous viendrons
absolument
en détail. Lorsque nous parlons des sociales, j'aimerais que nous puissions parler plus simplement de l'emploi. C'est comme ça qu'ailleurs on raisonne.
Mais aussi Dédé Moulossa, le Congolais, il y a le prix du pain qui a augmenté, le carburant, mais c'est des choses qui l'intéressent au quotidien, sa vie en dépend, et il voudrait voir aussi des améliorations dans ce secteur, mais visiblement on a l'impression que les efforts sont assez lents.
Oui, monsieur le journaliste, nous sommes dans la dramatisation au Congo. Et ça ne nous permet pas d'avoir un esprit serein pour réfléchir, analyser et établir de meilleures perspectives. La réalité, c'est un peu ce que je viens de résumer pour dire qu'au niveau ailleurs, on oppose, je voudrais terminer mon fil d'idée, ailleurs on oppose la croissance, le rythme de croissance, à l'emploi, et à l'emploi on oppose les rémunérations. Ouais, c'est comme ça qu'on parle, on ne parle pas du social. Le social, ça peut faire l'objet d'une autre émission pour que nous puissions dire quel est le modèle social dans notre pays, quelle est la manière de prendre en charge les dépenses en dehors des dépenses de rémunération. Et donc, par rapport à cela, les efforts ont été faits. Mais lorsque vous parlez de l'augmentation du prix du pain, je dis qu'il y a une réaction du gouvernement de la République. À ce que je sache, j'ai vu à la télé, dans les images qui passent dans les médias, l'intervention du ministre de l'Économie qui exigeait des opérateurs dans ces secteurs-là de lui produire la structure de prix de pain pour justifier, pour prendre les éléments qui pourraient justifier les augmentations de 50% à peu près qui ont été opérées dans les secteurs. Et ils les font visiblement de manière qui m'a paru être anarchique au vu des déclarations du ministre de
l'économie. De l'économie. Et il en a même traduit certains en justice.
Portrait.
Dédé Moulossa Kashiamankoï est licencié en sciences économiques, option économie pure au département économie monétaire et internationale de l'université de Kinshasa. Il est un ancien haut cadre de direction de la BNP Paribas en charge de crédit et des opérations, conseiller au ministère du budget en charge de la dette publique puis de la conception, de l'élaboration et du suivi de l'exécution du budget de l'État et enfin des réformes du gouvernement suivies par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Dédé Moulossa est un ancien conseiller principal du Premier ministre en charge du collège budget, finance, banque et monnaie, puis en charge du collège suivi et évaluation du programme du gouvernement suivi par le FMI et la Banque mondiale. Dédé Moulossa est l'auteur de plusieurs ouvrages en phase d'être publiés, plan de construction de la RDC de 35 prochaines années, bilan économique et financier de la RDC de 20 dernières années, les réformes politiques, économiques et sociales majeures des 35 prochaines années et leurs coûts de financement.
Dédé Moulossa, l'émission est en train de se terminer. En guise de conclusion, comment entrevoir l'économie congolaise après de tels excédents budgétaires?
Bon, il faudrait dire de manière générale, si nous maintenons le cap qui a été enclenché depuis 1997, si nous maintenons ce cap qui a été après consolidé en 2001 jusqu'à ce jour, de plus ou moins 5 à 7% de taux de croissance annuel, eh bien, à l'horizon 2050, nous dépasserons les 1 000 milliards de PIB pour notre pays. Et nous pourrions même atteindre le 2 000 milliards si le programme, il y a un plan de stratégique de développement qui a été conçu par le chef de l'État et qui est en train de qui est en discussion au niveau du gouvernement pour que en 2019 qu'il puisse être mis en place et puis mis en œuvre. Et si nous mettons ce plan là en exécution de manière assez rigoureuse comme on a pu aller faire depuis un certain temps, nous pourrons même atteindre 2000 milliards. Le 2000 milliards à l'horizon 2050-2055, ils ne sont pas nombreux en Afrique à pouvoir l'imaginer.
Dédé Moulossa, merci d'être passé à Grande Interview.
Merci beaucoup, messieurs les journalistes, et je remercie également les auditeurs qui auront l'amabilité de nous suivre.
Grande Interview, c'est fini pour aujourd'hui. Supervision Tina Salama, coordination Michel Kifindangoy, présentation Alain Irung Mouchinj. Merci de votre attention. Au revoir.